C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
I have a dream.
Salut, c'est Charles Cécile. Alors me voilà dans le haut lieu du conte qu'est le Clio à Vendôme. Le Clio, c'est un centre de ressources, de création, de formation aux arts de la parole et du récit, dirigé par le conteur Bruno de la Salle, qui est souvent cité dans l'émission C'est pas pour dire. Aujourd'hui, ce n'est pas Bruno de la Salle que je cherche, mais plutôt Pepito Matteo qui est ici. Et l'inspecteur Matteo va m'aider dans les enquêtes.
Ouais, on nous a chargé de l'enquête, mon collègue et moi. Ah ! Bon, bah dites donc, on n'est pas la noce, hein ? Jugez-en plutôt. Photo. Alors, on voit tout de suite en numéro 1 que la mariée est plutôt triste, non ? Ah bah oui, on le serait à moins. À côté d'elle, la place est vide. Le marié too much n'est pas là. Alors, on est en droit de se poser des questions. Est-ce qu'il aura trop arrosé sa vie de garçon la veille? Ou bien est-ce qu'il sera sorti pour un petit besoin? Et pourquoi à ce moment-là précisément? À moins que quelqu'un l'ait enlevé. Affaire à suivre. Observons un peu les convives. Et tout d'abord le numéro 4. Regardez le numéro 4. Il n'a pas l'air dans son assiette. Ça se voit tout de suite. Ou alors, c'est un intermittent du spectacle qui aura vu passer une délégation du MEDEF. Non. Observons les choses d'un peu plus près. Regardez, on voit très clairement que le numéro 4 et le numéro 5 sont reliés. Donc, il s'agit sans doute d'un couple. Un couple qui aura voulu se séparer pendant la noce. Elle, c'est Claire, elle y voit pas très bien. Lui, c'est Louis. Il a un problème d'oreille. D'ailleurs, on peut constater qu'elle a une plume sur la tête. Ça veut donc dire qu'ils ont un perroquet, qui doit s'appeler Coco, comme tous les perroquets. Il a dû s'envoler au moment de la photo. À présent, continuons la prospection. Regardez bien en haut à droite. Il est étonnant, isn't it, collègue ?
Voilà, je suis dans la grande cour du quartier Rochambeau et à la recherche du conteur Pepito Matteo. Il va falloir que je le trouve. Donc là, le quartier Rochambeau, c'est une très belle place ancienne qui a servi de garnison. Et dans certains des locaux, le Clio, le conservatoire de littérature orale, s'est installé. Voilà, je vois descendre des personnes qui était avec Pepito. Voilà, j'en vois là qui arrive. Est-ce que vous avez vu Pepito Matteo?
Non, nous n'avons pas vu Pepito Matteo. Vous cherchez Pepito Matteo?
Pas de Pepito Matteo.
Non. Il est toujours en haut?
Oui.
Alors il est toujours en haut.
Ah, il est toujours. Alors je vais continuer mon enquête. Merci, madame.
Je vous en prie, monsieur.
Bonjour, c'est...
Bonjour.
Quel est votre prénom?
Marie-Danielle.
Marie-Danielle. Alors dites-moi, Marie-Danielle, vous étiez avec Pepito Matteo?
Alors, j'étais sur la formation de Pepito Matteo de 3 jours, de lundi à mercredi. Mmh.
Très bien. Et c'était quoi cette formation ?
En gros, c'est apprendre comment s'approprier ou un conte ancien et le transposer, ou une nouvelle et la transposer, et en faire un conte, ou actualiser, ou transformer un écrit en conte. Comment conter aujourd'hui, tout en respectant quand même les textes anciens, sans les dénaturer, mais en les actualisant avec nos problématiques actuelles.
Très bien, c'est un sacré programme ça. Donc c'est quoi ? C'est garder la structure en fait, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est en gros d'analyser une nouvelle ou un conte ancien, d'en analyser la structure, d'en comprendre le sens profond et de le transposer. Le problème de l'emploi, par exemple, au Moyen-Âge, le problème de l'emploi maintenant, il y a des problématiques qui se recoupent, mais ce n'est pas dans les mêmes conditions entre une cité et un champ.
Alors, ce stage vous plaît ?
Oui, énormément, parce qu'on allie des explications de méthode. Après, on met en œuvre. Et après, il y a un débriefing qui permet de voir d'abord les forces, donc ça conforte, ça fait du bien. Et puis, quels sont les points d'amélioration pour qu'on puisse progresser, puisqu'on est là pour apprendre et se perfectionner.
Alors, voilà Pépito qui arrive. Oui. Entre nous, est-ce qu'il est gentil, Pépito ?
Ah, il est très honnête, c'est-à-dire que si quelque chose ne va pas, il le dit, mais avec une douceur et un respect de l'individu énorme. Alors, ce qui fait qu'on sait sur quoi progresser, mais sans être heurté.
On n'en dira pas plus. Merci beaucoup.
Je vous en prie, au revoir.
Excuse-moi, un Pépito. On déboule un peu tard, mais tu sais, au moment où j'allais partir, ils m'ont demandé de dédicacer les livres.
Bon, très bien. On fait un petit peu de route ensemble, puis on va boire un petit verre.
Très bien.
Voilà.
J'étais un grand bateau descendant la Garonne, farci de contrebande et bourré d'espagnols. Les gens qui regardaient saluaient la Madone que j'avais attachée en poupe par le col. Oh, un jour, je m'en irai très loin en Amérique, donner des tonnes d'or aux nègres du coton. Je serai le bateau pensant et prophétique, et Bordeaux croulera sous mes vastes pontons. Oh, qu'il est loin le chemin d'Amérique, oh, qu'il est long le chemin de l'amour. Le bonheur, ça vient toujours après la peine. T'en fais pas, mon ami, je reviendrai. Et puisque les voyages forment la jeunesse, alors t'en fais pas, mon ami, je vieillirai. Rassasié d'or ancien ployant sous les tropiques, m'en reviendrai les voiles en avant, porteur de blé nouveau avec mes coups de trique. Tout seul, mieux qu'un marin, je violerai le vent, harnacher l'Espagnol remontant la Garonne. J'entrerai chez nous éclatant de lueur, les gens s'écarteront saluant la Madone en poupe par le col et d'une autre couleur. Oh, qu'il est doux le chemin de l'Espagne, qu'il est doux le chemin du retour. Le bonheur, ça vient toujours après la peine. Oh, t'en fais pas, mon ami, je reviendrai. Et puisque les voyages forment la jeunesse, je te dirai, mon ami, à ton tour, à ton tour.
Un ben nous voilà. Nous voilà sur un banc, tranquille, dans le parc Ronsard.
Au milieu des gazouillis.
Mmh. Es-tu un habitué de Vendôme ?
Oui, je fais un stage tous les ans, ici au Clio, et j'aime bien cette ville pour sa tranquillité, et puis parce qu'il y a un côté un peu moyenâgeux, et comme je sais que Bruno travaille beaucoup sur les textes anciens, sur cette vieille littérature orale qu'il essaye de sauver, comme dans Fahrenheit, qu'on a vu hier soir, un film de Truffaut. Moi, je suis dans une autre démarche, puisque je suis plutôt dans la création de textes nouveaux, d'inventions. Je suis absolument pas un gardien de la mémoire. Mais justement, ça m'intéresse bien qu'il y en ait qui le fassent. Et venir à Vendôme, ça me plonge un peu là-dedans. Ça me donne envie de voir que tous ces gens remettent au goût du jour des vieilles épopées, de toutes les civilisations de toutes les époques. C'est un sacré boulot qu'il fait là, hein, Bruno. Donc moi qui cherche le sens quelquefois par l'absurde, ça veut dire que ça me travaille quand même, cette affaire de sens. Et ça me renvoie à la question du petit Pousset.
Alors le petit Pousset, ah bah ben là,
le petit Sépou.
Alors qui c'est ce petit Sépou? Est-ce qu'il y a un lien de parenté avec un gars qui s'appellerait Pepito Mateo?
Ben oui, je crois que le petit Pousset il a un lien de parenté avec tout le monde. C'est-à-dire que on cherche tous à trouver le chemin qui va nous faire peut-être pas revenir chez nos parents, mais trouver le chemin qui va nous permettre de savoir d'où on vient et où on va. Et moi, j'ai été pendant très 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 longtemps sans le savoir. C'est-à-dire que, d'une part, j'étais un enfant qui comptait pour du beurre, comme on disait à l'époque, parce que j'étais le petit de la famille.
Entre deux sœurs.
Voilà, en dessous de deux sœurs. Et c'était les femmes qui avaient le crachoir à la maison. Ma grand-mère, ma mère, mes sœurs. Et moi, je devais faire rire un peu pour me faire remarquer. Il fallait que je décale le propos, puisque j'avais moins de choses à dire. Et donc, mon père, lui, était plus physique, il était un peu clown et tout ça. Cette partie-là était amusante avec lui. J'avais du corps à corps avec lui. Mais avec les femmes, c'était la parole. Et ma grand-mère, ma mère, étaient très brillantes. Elles avaient la réponse à tout, un petit peu. Ma grand-mère, elle disait « La vie est une tartine de merde dont on mange une bouchée tous les jours. » Ça ne s'invente pas. Hein. Et elle rajoutait « Plus ça vient, moins il y a de pain. » Et moi, c'est des expressions que j'entendais. Ça me faisait rire. Mais avec le recul, je me dis que ces femmes avaient sans doute beaucoup de difficultés à vivre et que c'était une manière de s'en sortir par l'humour, par la façon... au fond, les contes sont peut-être nés de ça. Pouvoir...
Les contes en général, tu veux
oui,
dire.
Oui, faire sortir les petits de leur détresse et les faibles. Il faut bien trouver des solutions imaginaires aux difficultés de la vie.
Au petit matin, le nez dans leur bol, les parents Perrault préparent un mauvais coup. « Alors, dit la mère, t'avais pas dit que t'irais perdre les gosses ce matin dans la forêt ?»« j'y vais, dit le père, si tu crois que c'est de gaieté de cœur. » Allez les enfants, Kader, Monique, Nono, Aïcha, Tintin, en rang par trois, on va faire un tour. Il paraît qu'à cette saison, c'est plein de jolis parcs-mètres. Chouette ! Crient les enfants en chœur. Mais le père a son plan. De métro. Pour les perdre, il va faire zigzaguer les directions. Port de Saint-Ouen, Mérite, Clichy. Par Saint-Lazare, Gallieni. Il va les perdre.
Métro lutin !
Les gosses avancent à la queue leu-leu, tout endormis, les mains dans les poches, dans les couloirs tout blancs. Correspondance tous en cadence. Belleville Barbès, Bastille, Jaurès, il va les perdre.
Métro lutin.
Ils sont coincés derrière les portes automatiques, tout entassés comme des fagots de bois ficelés dans les lumières crues du matin. À République, on oblique. Châtelet-Léal, tout le monde descend. Et là, le père les abandonne lâchement dans la jungle des Halles. Les gosses se retrouvent dans une immense forêt, une forêt de panneaux publicitaires. Perdus au milieu des visages souriants et gigantesques, Ils se sentent soudain minuscules et ils se mettent à pleurnicher. Mais le plus petit de tous, qui est aussi le plus rusé, qu'on appelle le petit sépou, leur dit « Ne repleure pas les gingfrancs, car j'ai mes œufs légumes chûres mincheux. » Oui, ne pleurez pas les frangins, car j'ai semé des chewing-gums en chemin. Dans le groupe, l'espoir renaît. « Neveu, on va lever trou !»« Venez, suivez-moi, et en faisant le chemin en sens inverse, on finira bien par retrouver la maison. » Hélas ! Entre-temps, de drôles d'oiseaux ont ramassé les chewing-gums. Les voilà égarés pour de bon. Ils s'enfilent dans une galerie, la frousse aux trousses. Mais au bout du tunnel, le ciel et la rue. Soudain, une lumière. Ils trouvent refuge au café des Couchetard et s'agglutinent devant un jeu vidéo. Des lumières clignotent. Bip, 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 bip. Attention, évitez les trois cases maudites. Sclap, doug. Contournez le champ de mine pour atteindre le donjon. Crac, chlop, bloup. Nos héros progressent. Ils doivent éteindre les sept petits bonnets rouges et rallumer les sept petites couronnes d'or pour s'emparer des bottes magiques. Ils foncent à travers la forêt des ombres, gardés par les chevaliers contrôleurs. Le petit sépou s'empare des bottes magiques. Quand soudain, la main de l'ogre, l'énorme main au doigt laser, s'abat sur lui. « Dehors, petit morveux !» Il quitte à regret le café des Couchetard. Dehors, il fait déjà nuit. Tous les chats sont gris. Sépou regarde ses pieds. Il a de grandes bottes rouges qui brillent sous le réverbère. Heureusement, il n'est jamais à court d'idées. En suivant les tags qu'il a tracés au fil du trajet, ils vont regagner petit à petit leur territoire. Dans le soir, le tram siffle comme un serpent. Ils avancent rue Picasso. Dans l'immeuble, ils montent les étages. Derrière la porte, ils tendent l'oreille. « Ah !» dit la mère en pleurant. « S'ils étaient là, je pourrais leur servir une bonne petite soupe. »« Honte sur nous !» dit le père. « Nos petits sont perdus. » « Si seulement ils pouvaient revenir !» se lamente-t-il en cœur. Soudain, la porte s'ouvre. « Salut les rempas, c'est nous que v'là ! Kader, Nono, Tintin, Monique, Aïcha !» se précipitent dans leurs bras. C'est la joie des retrouvailles. Et la vie reprend, avec ses hauts et ses bas. Le temps passe, la mère repasse, le père sans boulot se surpasse au loto. Mais la joie ne dure qu'un temps. Bientôt, les parents préparent un nouveau plan pour perdre les enfants. Le petit sépou, qui n'a pas ses oreilles dans la poche, a senti le danger. Et il se sauve avant. De Saint-Denis à l'Amérique, le monde est tout petit avec des bottes magiques. Sous ses pas, la pluie fait des étoiles. Petit sépou n'a pas du tout envie de rentrer. Dans la nuit des temps, un ogre l'attend. Sur le chemin de son histoire, il cherche les petits cailloux de son destin. Tradéridira, un rat d'égout passa par là et l'histoire finit là. Tradiridiré, une souris congelée et le conte est terminé.
Tu penses que les contes viennent plutôt du peuple plutôt que de la bourgeoisie ?
Oui. Oui, parce que... Enfin, je pense qu'il y a eu de tout temps des artistes qui ont inventé ces choses-là. Mais le peuple n'avait pas grand-chose d'autre pour se distraire que, et se sortir de sa difficulté de la réalité que cet imaginaire du presque rien, c'est-à-dire le cinéma du pauvre, la parole et les images. Et je crois que les contes ont une force d'optimisme, notamment pour les petits, les jeunes comme moi j'étais, qui n'avaient guère de compréhension de comment devenir grand ou comment arriver à se faire son chemin dans ce monde de fauchés, parce que mes parents n'avaient pas de sous, ils s'engueulaient sans arrêt pour l'argent, que dans la famille on était cathos, mais en fait tout le monde faisait des vacheries à tout le monde. Enfin, je ne voyais pas quel sens ça avait tout ça. on parlait qu'il fallait se marier, mais je voyais des gens qui ne s'entendaient pas ou qui se cocufiaient. Toutes ces choses-là m'amenaient à penser que ce qu'on me présentait comme une chose bien n'était pas bien. On disait qu'il faut respecter le patron de mon père, c'est un monsieur. En fait, je me suis aperçu après qu'il exploitait quand même les ouvriers de façon assez... Bon, je ne lui en veux pas spécialement, mais mon père a pu travailler aussi chez lui. Mais au fond, ce qu'on nous présentait dans la façade ne reflétait pas ce que je voyais derrière le Castelet.
Est-ce qu'on peut dire que toi, Pepito Matteo, tu es un transformateur, un transformeur du réel?
Oui, parce que je m'inventais des histoires sans arrêt. Je rêvais. Et je m'inventais des choses à bracadabrande. J'avais même un personnage ami, un double de moi, qui pouvait se permettre un peu tout. Et donc, c'était une manière d'être toujours en me disant, peut-être on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire dans le réel. Non.
Comment il s'appelait ton double?
Goli. Il s'appelait Goli. Bon, je ne sais pas de quoi ça vient. C'est un « go », ça veut dire « aller », et « li », ça veut dire « dormir ». Donc, il rêvait en marchant, peut-être.
Et donc, tu lui faisais faire à peu près tout ce que toi, qui t'embêtais, enfin, que tu ne pouvais pas faire, quoi.
Voilà. Et très tôt, je me suis mis à écrire des histoires ou à les inventer, ou à les... Et je me souviens même qu'en colonie de vacances, un jour, je suis arrivé en colo, et j'avais pas de copains, j'étais très timide, j'avais peur et tout ça. Et pour me faire des copains, j'avais raconté un truc qui n'existait pas. Je leur avais dit que j'avais vu un film et ils me disaient c'était quoi. Je disais c'est un chevalier, mais il était très fort. Ils disaient comment il était. Et avec leurs questions, je disais il avait une tunique bleue et il avait des yeux. Et les gens étaient obligés de s'en aller quand ils le voyaient, tellement ils avaient peur de ses yeux. Je ne sais pas, je raconte. Et alors les autres, ils me disaient, posaient des questions. Je vous raconterai le reste demain parce que là... il fait tard, mais... Et donc, tous les jours, il revenait à la relance. Et je me disais, c'est dingue, parce que moi, je ne sais pas ce que je vais raconter. Et ça tient qu'à un fil que je garde leur amitié. Donc, ça me donnait l'idée que pour se faire des copains, il faut raconter.
Est-ce que ça ne serait pas un petit peu là qu'est né
Je le réalise maintenant, mais je pense que... Je réalisais à l'époque que la parole pouvait nous maintenir... en relation avec les autres et de pouvoir les emmener ailleurs que ici et leur faire croire à des choses, pas pour les tromper, mais pour qu'ils restent avec nous, justement. Il y avait un côté troquer par la langue ce qu'on ne peut pas faire par autre chose, parce que, bien sûr, celui qui fait des galipettes, des doubles sauts périlleux, on a envie de le suivre parce que c'est un costaud, mais l'autre qui n'a rien à faire, il faut bien qu'il s'en sorte quelque part. Donc je pense que les conteurs, ce sont des gens qui n'ont pas pu prouver autre chose autrement, peut-être.
Ouais, sauf que là, la ville, elle est recouverte de neige. C'est un soir de Noël, il n'y a personne dans les rues. Il y a des lumières allumées, mais... les gens font la fête à l'intérieur. Dehors, il y a juste mes pas dans la neige. Au coin d'une rue, j'aperçois un petit camelot. Il est recouvert de neige. J'ai bien envie de lui acheter quelque chose. Je fouille dans mes poches. Et je finis par retrouver un billet dans ma petite poche de veste. Alors je lui dis, qu'est-ce qu'on peut avoir pour ça? Et il me tend une petite fiole. Il me dit, c'est du bonheur en kit à monter soi-même. Alors moi, je m'enfile la fiole et là, je me mets à glisser. Et en même temps que je glisse, je danse. Et en même temps que je danse, je vole. Je glisse, je danse. À un moment donné, je passe devant un bazar. Il est ouvert en plein soir de Noël avec des serpillères, des seaux, des manches à balai. Alors moi, je rentre dedans. Bling, bling. Eh ben, dis donc, il y a de l'ambiance là-dedans. Ils me disent, oui, on attend quelqu'un. Ah, je dis, bon, excusez-moi. Et je vais pour ressortir. Il y a une femme qui m'attrape par la main. Elle dit, ça peut très bien être toi. Et elle m'entraîne à la salle des convives. Et alors, c'est hyper sympa, mais alors très convivial. On commence à manger du céleri rémoulade, puis ensuite de la langue de bœuf sauce vipère,
Ensuite, il y a quelqu'un qui dit « Allez, on chante une chanson ». Alors, tout le monde se prend les mains, puis on commence à chanter « Le Hans de Schnockenhoch, il a tout ce qu'il veut ». Après, on mange le dessert, c'est de la salade de fruits bio avec de la crème chantilly macro bio avec des plumes. Enfin, c'est un peu bourratif, mais c'est excellent. On boit le café, puis il y a quelqu'un qui dit « Alors, il y aurait personne pour raconter une histoire en fin de repas ?» À ce moment-là, je me lève et je dis « ça se passe dans les bayous de Louisiane. C'est un crocodile à fleur d'eau qui se laisse glisser. Et on ne sait pas trop si c'est un crocodile ou un tronc d'arbre. Et il s'approche de la berge où se trouve un lièvre. Et le lièvre, il voit arriver le crocodile, mais il ne sait pas si c'est un crocodile ou un tronc d'arbre. Et il est tellement apeuré qu'au bout d'un moment, il dit « Si tu es un véritable crocodile, viens jusqu'à moi, dévore-moi, mais si tu es un tronc d'arbre, fais demi-tour, remonte le courant. » Alors du coup, le crocodile, il a fait demi-tour, mais il s'est fait alpaguer, ils l'ont écorché, ils en ont fait des sacs. Mais lui, le lièvre, ça ne l'a pas rassuré. Parce qu'il s'est dit « C'est la première fois que je vois un tronc d'arbre qui remonte le courant. » Or, derrière le lièvre, il y avait un autre crocodile, un lâche, qui avait tout vu. Il s'est approché juste derrière le lièvre, il a ouvert sa gueule, et juste au moment de la refermer sur le pauvre lièvre, il a émis une pensée, le crocodile. Normalement, un crocodile, ça ne doit pas émettre de pensée. Hein. Quand ça a faim, ça mange, et puis c'est tout. Hein. Mais là, je ne sais pas, peut-être trop de protéines. Il a dit, tiens, c'est la première fois que je vais manger un lièvre qui parle. Et ben, rien que ça, ça l'a retardé. Et le lièvre a vu l'ombre de la gueule du crocodile, et il a juste eu le temps de sauter de toutes ses forces, ce qui fait que le crocodile, il s'est cassé les dents. Et alors, c'est un dimanche, il n'y avait pas de dentiste d'ouvert. Du coup, il a mangé de la vase toute la journée. Il s'est farponné, lui aussi, un peu plus loin. Ils en ont fait des sacs, mais alors des sacs de deuxième catégorie, dans un atelier clandestin avec des grosses coutures. Il a fini au bras d'une fille sur un parking de boîte de nuit qui venait de danser sur l'été indien de Joe Dassin. Enfin, triste, 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 triste. Vous allez me dire, le principal, c'est que le lièvre ait sauvé sa peau. Ouais, seulement le lièvre, il a sauté si fort qu'il est tombé dans l'eau. Et lui, il savait pas nager. Mais alors, un coup de chance inouï, au moment où il allait toucher l'eau, il y avait un tronc d'arbre qui passe en dessous. Il est tombé en plein sur le tronc d'arbre. Mais lui, le lièvre, il savait pas si c'était un tronc d'arbre ou un crocodile. Donc, il a joué hyper serré. À un moment donné, il passait sous un pont. Sur le pont, il y avait un pêcheur. Et qui c'était le pêcheur ? Eh ben, c'était Tonton Alfred. Et Tonton Alfred, quand il a vu passer un lièvre dans l'eau, il a dit « La prochaine fois, j'irai à la chasse ». Et ça l'a vraiment dégoûté. Il rentre à la maison, il a cassé sa gaule, crac, même deux gaules, il en a cassé deux, et il a pris sa carabine. Sauf que quand il est rentré, ben, sa femme, elle n'était pas toute seule, parce qu'il était rentré un peu plus tôt que d'habitude, Tonton Alfred. Alors là, ça s'est très très mal passé avec la carabine. Le cadavre dans l'armoire, et puis Tonton Alfred en train de coudre des sacs pendant 30 ans, hein, avec des grosses coutures pour des marques mal payées. Hein. Là, ça a acheté un froid, là. Et là, juste à ce moment-là, tout se transforme en une photo de famille. C'est une vieille photo en noir et blanc. C'est toute ma famille. Ils sont à une grande tablée, dehors. Ça doit être le mois de juillet, il fait très très beau. Une guinguette, ils viennent de manger sans doute. Ils ont tous le sourire. Au premier rang, il y a mon oncle préféré qui est tout jeune. Il boit un verre de limonade. Juste en face, il y a... Le beau-frère, lui, boit pas de la limonade. Hein. Il a un gros ballon de rouge devant lui, mais on dirait un déménageur. Il est costaud comme tout. Derrière, il y a une femme très belle avec des boucles. Ça doit être ma mère. Elle sourit au photographe. Et alors, sa main passe de l'autre côté de la table. Elle doit donner sa main à quelqu'un. Ça doit être mon père, mais mon père, on le voit pas parce que il a un chien sur les genoux. Et la tête du chien passe devant la tête de mon père. Ce qui fait qu'on dirait que c'est le chien qui fait de l'œil à ma mère. Derrière, il y a ma grand-mère qui tricote des chaussettes. Il y a Odile qui boit son verre de blanc en regardant les étoiles en plein jour. Elle a pas l'air d'avoir trop le moral. Il y a Raymond qui a dû ouvrir des yeux parce qu'il a un pansement au bras. Il y a le grand-père Marcel avec ses grosses moustaches qui sait pas qu'il va mourir dans 3 mois. Il y a Tante Thérèse. Il y a Gaston. Il y a Lucien. Il y a le voisin avec son grand nez qui ressemble au général de Gaulle. Puis il y en a d'autres, je ne sais pas qui c'est. Puis alors tout au bout, il y a une prairie avec des vaches. Il y a même un poney qui a accroché un piquet. Et puis en contrebas, il y a une petite route avec une banderole au milieu de la route. C'est marqué Arrivé. Ah oui, ça doit être une course cycliste. Ouais. Ah oui, mais oui, c'est une étape du Tour de France qui passe dans l'Aube. Et là, ils sont tous attablés et ils attendent les coureurs. D'ailleurs, on entend...
Les voilà, ils arrivent.
Et alors là, eux, ils se lèvent tous pour aller jusque sur la ligne d'arrivée. Il y a un monde fou et il y a même un speaker qui s'époumonne.
Alors Raymond, pourquoi t'as été ennuyé? Mince, j'ai pas vu les coureurs passer.
Qui est-ce qui a gagné?
J'ai un tchèque.
Comment il s'appelle? Vorjak, Vorak, allons comme ça.
Tout le monde se précipite pour toucher le champion. Les gens passent la route. Ça fait comme une marée humaine. Ça fait comme des mouvements, des vagues de monde. Et moi, je cours derrière, j'essaye de les rattraper, mais j'avance au ralenti. En fait, je fais du surplace. J'arrive pas à les rattraper. Je crois qu'au fond, j'ai pas envie de me décider à passer la route. Non, moi j'ai envie de la continuer, la mienne, de route. Et j'ai l'impression qu'on me pousse dans le dos. En fait, c'est les mots qui me poussent dans le dos. Et les mots, ils me disent « Allez, vas-y, te dégonfle pas !» Je crois bien que c'est eux, aujourd'hui, qui m'ont donné le courage et le culot de raconter cette drôle d'histoire à des oreilles indigènes. Parce qu'au fond, on vit tous côte à côte dans un grand rêve éveillé, n'est-ce pas ?
Toujours dans le parc Ronsard, très beau parc de Vendôme, avec Pépito Matteo, tout se passe bien et en matière d'enquête de contes, je me demande cependant si je ne me fais pas un tout petit peu rouler dans la farine.
Ce que je sais, c'est que je suis né dans une chaussette, ça c'est sûr, puisque ma grand-mère, pour pas que j'attrape froid, elle faisait des coutures de chaussettes à Romilly-sur-Seine, qui était une ville... du coq sportif où on faisait des chaussettes, des sous-vêtements, etc. Et d'ailleurs, mon père devait se marier avec la fille du coq sportif. Mais ça n'a pas pu se faire, donc je suis né grâce à cet échec de mon père, puisque autrement, il ne se serait pas marié avec ma mère. Et donc, ma grand-mère tricotait des chaussettes, Et je m'apercevais que lorsqu'elle tricotait, elle avait besoin de parler, de raconter des histoires. Et donc un jour, j'ai détricoté son tricot pour savoir où pouvaient m'amener les histoires. Donc je suis relevé la nuit, j'ai détricoté la chaussette, j'ai attrapé froid au pied, ça m'a fait éternuer. Ma grand-mère s'est réveillée et elle était tellement en colère que j'ai dû me sauver par la fenêtre en descendant par le fil. Et je me suis sauvé en courant. Il y avait un kangourou qui passait, j'ai eu le temps de sauter dans sa poche, il m'a amené à Troyes, où j'ai pu faire des études brillantes puisque j'ai été renvoyé en 6e et qu'on m'a enseigné la peinture en bâtiment. Et en peignant les façades, je me suis dit, mais c'est comme des décors, on peut faire du théâtre en peignant les façades. Et c'est là que j'ai commencé à jouer devant la peinture. Mais comme elle n'était pas sèche et que je me suis collé, on m'a pris pour Arlequin. Donc on m'a quand même embauché dans une troupe de théâtre ambulante.
Avec les carreaux tout préparés.
Avec les carreaux tout préparés. Et donc je suis devenu un comédien de la troupe. Seulement, je voulais tout faire. Je voulais écrire, je voulais mettre en scène, peindre les décors, jouer et tout ça. Et à un moment donné, il y en a un, il m'a dit « Tu ne peux pas continuer comme ça, il faut que tu deviennes conteur, parce que les conteurs, ils font tout. » Et effectivement, je suis aperçu qu'en inventant les histoires, on n'avait pas besoin des décors, puisqu'on pouvait les raconter. Et puis, on pouvait jouer les personnages, écrire l'histoire, même si soi-même, on n'est pas l'histoire. On peut sortir de l'histoire. Et du coup, ça m'a vraiment emporté dans le bain des rêveurs. Et à force de chercher des mots pour raconter, je me suis aperçu que les mots, des fois, avaient des doubles sens. Donc, ça m'a fait prendre des chemins différents auxquels je ne m'attendais pas. Et donc, en partant de A pour arriver à B, j'ai trouvé C. Et C, c'est conteur.
Quelle histoire. C'est
parfait que ce soit celle-là.
Dis donc, oui, on voit que... Bon, l'imaginaire, il n'y a pas trop de problème pour Pépito. Et puis après, il faut organiser tout cet imaginaire. Mais l'imaginaire est-il fragile? Est-ce qu'il peut se laisser canaliser comme ça?
L'imaginaire, c'est la faculté de créer des images. Et ça a deux sens. Ça vient de imago, à l'origine étymologiquement. Et imago a deux sens. Le premier s'intéresse directement au conteur, c'est créer une présence des images absente. C'est-à-dire, je te parle d'un homme qui marche sur un chemin. Cet homme n'est pas là, mais toi, tu peux le voir. Je viens de le faire naître. Et ça, c'est fabuleux. Je veux dire que les images, elles sont plus fortes qu'à la télévision parce que chacun va pouvoir faire les siennes. Donc, il y a une force quand même. Cette fragilité-là est une force. On a plus de force qu'une image télévisuelle qui va peut-être être choquante, mais au fond qui va nous être imposée. Mais une histoire, peut-être tu peux l'entendre une fois et t'en rappeler toute ta vie, si elle t'a marqué. Et quelquefois même, c'est une image dans le conte qui t'a marqué et qui va te rester imprégnée. Donc ça veut dire que pour moi, ce n'est pas fragile, c'est du fragile solide. Ça c'est la vision de la matière du conteur, oui. Les mots, les images. Maintenant, il y a l'autre chose qui est l'aspect fantastique, c'est-à-dire inventer des choses qui n'existent pas, inventer des images, des icônes ou des objets. Si je vais dire par exemple, c'est une planète qui est tout en chewing-gum avec les personnages, ils marchent la tête en bas et leur réflexion est dans leurs pieds. Je sais pas. Je vais inventer quelque chose qui n'existe pas, mais puisqu'on peut l'imaginer quand même, ça existe dans nos têtes. Mais à partir du moment où je pars sur des choses qui n'existent pas et que je les invente de toutes pièces, il va falloir à ce moment-là les construire pour qu'elles deviennent plausibles dans une sorte de discours narratif, c'est-à-dire qui part d'un point et nous amène à un autre. Donc on peut dire que le premier, le matériau des images, il est solide, mais cette construction est très fragile parce que c'est comme la vie en pire.
C'est un fil étroit.
C'est un fil très très étroit. Or, dans la vie, des fois, on peut s'y reprendre à plusieurs fois. Mais dans un conte, une histoire qu'on invente, tout doit tenir pour qu'il y ait comme un petit monde résumé.
Et ça, c'est très fragilisant parce que des fois, je demande aux gens d'inventer une histoire et des fois, ils se mettent à pleurer parce qu'ils s'aperçoivent que ça ne tient pas debout, leur histoire. Et ça nous renvoie à nous, si l'histoire ne tient pas debout, nous, on ne tient pas debout. Donc, j'apprends. Je m'intitule un peu architecte de la langue pour essayer de construire ce bâtiment de l'histoire
et
que ça tienne debout. Mais comme on sait qu'une histoire est toujours disponible à ce que ça bouge, c'est difficile. On est des constructeurs tout en étant des rêveurs. Et c'est ça qu'il faut concilier, ce paradoxe, cette contradiction.
Ce soir, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, il faut tout imaginer. Il faut que vous imaginiez des murs blancs, un peu verdâtres. Des lumières blafardes, c'est déjà la nuit. Par terre, du carrelage à damier noir et blanc, c'est plus facile à nettoyer. Et puis les odeurs qui vous prennent à la gorge, qui vous serrent comme un nœud papillon. Des conversations un peu feutrées, il y a déjà du monde. Oh, des gens qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Il y en a certains qui sont en famille, d'autres qui cultivent leurs pensées en solitaire. Des regards se fuient, se perdent, c'est pas très engageant. Vous avez deviné, non? Ben, ici, on est aux urgences à l'hôpital. Le premier qu'on peut remarquer, c'est un homme assez grand, un peu recroquevillé sur lui-même avec une chemise à rayures, et il n'arrête pas de faire des bruits de bouche. Ou plutôt, on dirait qu'il veut cracher ses mots par terre avec sa langue, mais que les dents, elles montent la garde du palais. À peu près en face, il y a une fille dans un fauteuil roulant. Elle essaye d'arracher sa perfusion, tout en marmonnant un truc du genre « Je ne suis pas un cheval, mais puisque je vous dis que je ne suis pas un cheval, laissez-moi !» Là derrière, il y a un gars qui est habillé en cycliste. Il a un maillot système D, avec des carreaux noirs et blancs. D'ailleurs, vous avez vu, ça fait un beau rappel avec le sol. Un peu plus loin, il y a une dame âgée. Enfin, il y a de la neige sur le toit, mais il y a du feu dans l'âtre, hein, puisque vous apprenez, sans le lui avoir demandé, qu'en fait, c'est son mari qui souffre d'un oncle réincarné. Tout au bout, il y a un box qui est fermé par un rideau. Alors, normalement, on ne peut pas voir à travers. Mais nous, dans l'imaginaire, tout est possible. À l'intérieur, il y a un jeune homme qui est allongé sous un drap. Ça respire encore un peu, mais il n'y a que les pieds qui passent. D'ailleurs, si on peut juger l'âge à partir des pieds, il doit avoir dans les 20-25, pas plus. Ah, là, il y a une femme jeune, en impair, très bien mise, très soignée. Enfin, elle ne l'est pas encore. Mais elle a un œil au beurre noir. C'est-à-dire qu'elle a l'œil rouge, cerclé de blanc, avec du noir par-dessus. Ça fait penser un peu au drapeau du Yémen. Elle a dû rater une marche. Ou bien, elle aura fait les soldes. Oh, je l'imagine. En train d'essayer d'attraper un soutien-gorge en dernière des taxes, au milieu d'une bande de matrones surexcitées. Il y en a une qui tire de l'autre côté, l'autre veut pas lâcher, elle le prend pleine poire. Et hop, un soutien-gorge à l'œil. Et puis quelques autres encore, dont un qui sourit à tout le monde et qui est loin d'être un habitué du personnel puisqu'il a déjà un surnom, la cerise. Là, aux admissions, il y a une dame qui fait l'accueil avec des grosses lunettes. Bonsoir, madame. Elle dit au revoir à quelqu'un des pompes funèbres qui lui répond qu'il repassera plus tard. Ça jette un froid. Des infirmières, des infirmiers qui passent, qui repassent, qui se surpassent dans une sorte de ballet très blues. Une dame de service avec seau et serpillière. Un ficus à l'entrée qui monte la garde. Un papillon qui se cogne dans un néon qui sursaute. Un téléphone amnésique à répétition par intermittence et personne ne répond. Voilà, eh ben, je crois que j'ai fait le tour. Oh, mais non, j'oubliais. Et vous, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, puisque vous êtes mon personnage principal. Vous qui arrivez au milieu de tout ça, et qui ne savait pas trop où vous mettre.
D'ailleurs, vous n'avez pas l'intention de moisir, vu que si vous êtes aux urgences, c'est que vous êtes pressé. Vous, vous seriez quelqu'une ou quelqu'un. Quelqu'un d'aujourd'hui. Oh, quelqu'un de bien, il va sans dire, mais sans grand privilège. Disons que vous seriez dans la moyenne des gens qui sont le milieu de ceux qui ont les moyens. Sans plus. Vous auriez vos idées, qui ne seraient pas forcément les vôtres, mais enfin, que vous partageriez assez bien avec vous-même. Vous seriez moderne, c'est-à-dire pressé, débordé, overbooké même. Et pourtant, vous voudriez le maximum de la vie. Le fric sans trop en faire, l'amour et la liberté, l'aventure et la sécurité, le VTT, la piste cyclable, le beurre allégé, l'argent du beurre. Donc, vous seriez plutôt du genre déconcerté si vous arrivez une chose aussi banale qu'un panari. Pourquoi un panari ? Peut-être que vous avez voulu toucher du bois en vous disant pourvu que ça dure. Et puis que vous êtes aperçu que chez vous, il n'y avait pas de bois. Alors vous êtes sorti sur le palier et là vous êtes tombé sur un voisin qui vous a demandé de garder son chat. Le chat s'est sauvé par la fenêtre, vous avez essayé de le rattraper. Sur le toit, vous avez failli passer à travers un Velux. Vous êtes raccroché une gouttière, la gouttière a cédé, vous êtes retrouvé sur le capot d'une voiture en stationnement, l'alarme s'est déclenchée, ça a fait aboyer un chien qui a affolé un enterrement qui passait, le cercueil est tombé par terre, il s'est ouvert sur un homme qui venait de casser sa pipe, vous en avez profité pour toucher du bois, vous êtes funéchard, et... De toute façon, je m'en moque totalement de la manière dont vous l'avez eu, ce maudit panari. Vous pouvez très bien imaginer tout ce que vous voulez, chacun son job. Moi, je raconte, vous vous imaginez... Et le panari, il fait son boulot de panari. C'est-à-dire qu'il vous agace, à force de se prélasser entre vos chairs, sans vous laisser de répit. Et c'est pourquoi vous auriez décidé d'en finir une fois pour toutes, avec ce bobo indigne de vous. Bref, vous seriez aux urgences pour que ça aille vite.
Tu penses que ce monde a besoin d'imaginaire en ce moment ?
Oui, le monde a besoin énormément d'imaginaire, beaucoup pour les adultes. Les enfants, on dit, c'est toujours, il leur faut les images et tout ça, mais les enfants sont très dans le concret. Alors que les adultes, ils sont tellement malheureux souvent dans la réalité, pour des choses extérieures et aussi parce que des fois, ils ne parlent pas de ce qui ne va pas, qu'il faut qu'ils prennent de la distance par rapport au réel. C'est pour ça que je pense que le théâtre devrait être obligatoire, l'enseignement des contes aussi, et l'improvisation. On devrait faire de l'improvisation dans les usines, dans les écoles, justement pour trouver d'autres parades. On vous dit par exemple, il y a un type qui arrive dans un château, il y a une porte et une trappe, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il ouvre ? La trappe, je sais pas. Bon, alors maintenant il rentre dans un couloir, et là, soit il entend un cri, soit... C'est-à-dire s'amuser avec le fait qu'il n'y a pas une réponse A ou B à une chose, mais qu'il faut réenvisager la distance. Et je pense que l'art, d'une manière générale, mais l'art de la parole... permet de prendre de la distance par rapport au réel.
Le conte dont vous êtes le héros.
Ouais, mais même un conte, quel qu'il soit, on est toujours un peu le héros. On écoute le petit pousset ou on écoute même n'importe quel conte. S'il nous embarque, c'est le héros. Si la quête du héros nous intéresse, le conte va nous renvoyer quelque chose à nous et nous faire prendre conscience par le rêve que le réel peut être vu d'autres façons. Et donc faire un métier comme nous, c'est magnifique parce que on donne aux gens des fois du bonheur au premier degré qui est la distraction, mais on sent qu'ils repartent, enfin j'espère, dans le meilleur des cas, remplis de quelque chose qui est le doute un peu. Et si c'était plus vrai que le réel ?
Est-ce qu'on peut parler de réenchantement, réenchanter les choses, leur redonner un peu ce poids que certains vont appeler poétique.
Le côté enchanté fait penser un peu à quelque chose d'un peu vieillot, d'un peu désuet, qui serait un peu nostalgique, retourné à l'enfance ou à des choses un peu... un monde enchanteur, un peu... ça fait jardin un peu... Bon. Mais je pense que, à défaut d'autres mots, celui-là est beau quand même. C'est-à-dire Je dirais l'enchantement de la curiosité. Les contes sont forts pour ça parce qu'ils nous font regarder derrière les portes où on n'a pas le droit d'aller. Ils nous font réentendre des choses un peu magiques, comme des souris deviennent des chevaux. C'est magnifique et c'est enchanteur, mais pas seulement parce que c'est en l'air, mais c'est parce que ça nourrit ce qui est sur terre. C'est-à-dire, c'est pas la poésie des petits oiseaux, c'est la poésie d'une certaine magie à faire vivre les êtres et les choses. Et les animaux, au fond, et si les arbres qui nous entouraient nous parlaient aussi, savaient des choses, est-ce qu'ils nous nourrissent non seulement par leur forme, mais par ce qu'ils sont, par leur passage sur terre à travers les temps. Il y a quelque chose qui nous induit à rêver. Et en rêvant, je pense que on est renvoyé à quelque chose qui est un peu essentiel. Il y a quelqu'un qui a dit que les rêves, c'était pas seulement à côté de la réalité, mais c'était quand on a quelque chose qui nous touche dans le réel, qui nous embête, lorsqu'on en rêve, c'est pour réduire ce qu'on est profondément en soi, c'est-à-dire le jardin de notre enfance qu'on n'a jamais, nos profonds désirs, avec cette difficulté, comment on va réussir à faire se rencontrer les deux. Et je pense que c'est assez juste. C'est-à-dire que le réel est magnifique, mais il est chiant. Mais les rêves peuvent être durs, on peut faire des cauchemars et tout, mais ils sont un contrepoint au réel. Ils peuvent lui faire peur, ou au contraire, le rendre plus doux. J'ai vraiment l'impression que c'est entre ce qu'on vit en tant qu'adulte et ce qu'on a toujours été, ce qu'on est au fond de nous, qui doit se rejoindre dans l'enchantement. C'est-à-dire être au plus près de soi, d'une certaine façon.
Le groupe nantais La Belle Vie.
Thank you.
Nous sommes toujours, vous et moi, avec le conteur et inspecteur Pepito Matteo, dans le spectacle Pola, qui est un polar sans air, mais avec de la musique.
C'est une fille qui marche dans une rue. Mais la ville, la fille, elle ne la connaît pas. Elle ne connaît pas non plus le nom de la rue. Rue du hasard. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ça lui fait toujours ça. Elle a l'impression de vivre les choses en rêve. Ou bien c'est l'inverse. Dans la rue, il n'y a pas grand monde. Il fait presque déjà nuit. La seule chose qu'elle sait, la fille, c'est qu'elle cherche à manger. Non, c'est pas pour elle. C'est pour un vieux monsieur qui le lui a demandé. Oui, ben ça va pas être facile à trouver. Tous les magasins sont fermés. Rue de la Fidélité, impasse du désir. Elle a l'impression d'être déjà passée par là. Rue du Dragon. Tiens, il y a de la lumière. Il y a même tout un attroupement. On dirait qu'ils sont déguisés. C'est pourtant pas carnaval. Ou bien c'est une manifestation de l'intermittent du spectacle. La fille s'approche. En fait, il s'agit d'une galerie de peinture, sans doute un vernissage. Elle se dit qu'elle va peut-être trouver à manger. Alors elle se faufile au milieu des convives et elle entre. Il y a du monde à l'intérieur. Un défilé de mannequins. Ce sont des filles longilignes avec des robes dans une drôle de matière. La marque Snake, dragon, serpent. Elles font des déhanchés et des gens applaudissent du bout des doigts. Sur les murs, il y a aussi des toiles de peinture. Elles représentent des femmes vêtues de robes rouges, sans doute les robes qui ont dû servir de modèle. Ah, un peu plus loin, il y a un buffet avec de la nourriture. Et la fille, c'est surtout ça qui l'intéresse. Alors, sans trop se faire remarquer, elle s'approche du buffet. Elle prend un toast. Elle fait semblant de le porter à sa bouche et au dernier moment, elle le roule dans une serviette en papier et le glisse discrètement dans son sac. Elle recommence plusieurs fois l'opération. Au bout d'un moment, elle en a bien assez. Alors elle se dirige vers la sortie. « Mademoiselle, vous prendrez bien une coupe de champagne ?» Flûte alors, c'est bien sa veine. Maintenant, elle se retrouve avec un verre à la main. Du coup, elle fait semblant de regarder l'étoile. Tout à coup, son regard s'arrête sur l'une d'entre elles. Comme c'est bizarre. C'est son portrait tout craché. Sur la toile, elle a une robe rouge et le décor est celui d'un château. La fille se sent mal à l'aise, d'autant plus qu'autour d'elle, tout le monde la regarde. Il y a même un type étrange qui n'arrête pas de la suivre. Il a une barbe avec de la peinture bleue dedans, ça doit être le peintre, un excentrique ce type. Et puis il a un drôle de regard. À présent, non seulement il la suit, mais il essaye de la toucher. La fille tente un volte-face, mais elle percute une toile, son verre tombe par terre, elle perd l'équilibre. quand elle reprend ses esprits, c'est plus du tout le même endroit. Elle se trouve dans un château. Elle est assise sur un canapé avec une robe rouge. Ils sont là tous les deux, lui, avec son regard bizarre et sa drôle de barbe. Soudain, il s'approche d'elle et lui tend un trousseau de clés. « Vous serez mon épouse, je dois m'absenter. Pendant mon absence, vous pourrez vous promener là où vous voudrez, mais surtout, n'ouvrez pas cette porte !» Cette porte, c'est justement celle-là qu'elle aurait bien envie d'ouvrir.
Et c'est devenu donc une enquête sur les mots. Et je l'ai appelée Paula parce qu'à un moment donné, il y avait quatre photos. On les faisait au Polaroid. Donc c'est Paula, Paula, un polar, mais sans en avoir l'air. Mais on avait la musique quand même. Et c'est devenu une machine infernale. D'ailleurs, je pourrais t'offrir le CD si tu le veux. Je te l'offrirai avec grand plaisir. Mais on ne le joue plus actuellement. Mais n'empêche que cette histoire de polar m'a quand même toujours intéressé. Et là, je suis en train de me mettre à écrire un recueil de pédagogique sur le conte. J'en ai déjà écrit un qui s'appelle « Le conteur l'imaginaire ». Et je suis en train d'en commencer un autre, mais sous forme de polar.
Ah, c'est bien dommage, mais il est l'heure de nous séparer. Cependant, il reste beaucoup de suspense et d'affaires non éclaircies. Mais, il y a une autre émission prévue avec Pepito Matteo qui vous attend. Vous voyez, tout n'est pas perdu. On se retrouve la prochaine fois pour C'est pas pour dire. Qu'on se le dise.
C'est pas pour dire était comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Goduchot et présentée par Charles Cécile.